Chapitre 8. La tour des deux amants. La salle des tortures s'arrondissait au-dessous de lui, vaste, de forme irrégulière, distribuée en parties inégales par les quatre gros piliers massifs qui soutenaient ses voûtes. Une odeur de moisissure et d'humidité montait de ses murailles et de ses dalles mouillées par les infiltrations. L'aspect devait en être, à toute époque, sinistre. Mais à cette heure-là, avec les hautes silhouettes de Sébastiani et de ses fils, avec les lueurs obliques qui jouaient sur les piliers, avec la vision du captif enchaîné sur un grabat, elle prenait une allure mystérieuse et barbare. Il était au premier plan d'Aubrec, à 5 ou 6 mètres en contrebas de la lucarne où Lupin se tenait blotti. Outre les chaînes antiques dont on s'était servi pour l'attacher à son lit et pour attacher ce lit à un crochet de fer scellé dans le mur, des lanières de cuir entouraient ses chevilles et ses poignets, et un dispositif ingénieux faisait que le moindre de ses gestes mettait en mouvement une sonnette suspendue au pilier voisin. Une lampe posée sur un escabeau l'éclairait en plein visage. Debout, près de lui, le marquis d'Albufex, dont Lupin voyait le pâle visage, la moustache grisonnante, la taille haute et mince. Le marquis d'Albufex regardait son prisonnier avec une expression de contentement et de haine assouvie. Il s'écoula quelques minutes dans un silence profond. Puis le marquis ordonna « Sébastiani, allume donc ces 3 flambeaux, afin que je le voie mieux. » Et lorsque les 3 flambeaux furent allumés et qu'il eut bien contemplé Aubrec, il se pencha et lui dit, presque doucement,
« Je ne sais pas trop ce qu'il adviendra de nous deux, mais tout de même, j'aurais eu là dans cette salle de sacrées minutes de joie. Tu m'as fait tant de mal, Aubrec. Ce que j'ai pleuré par toi, oui, de vraies larmes, de vrais sanglots de désespoir. M'en as-tu volé de l'argent ? Une fortune, et la peur que j'avais de ta dénonciation. Mon nom prononcé, c'était l'achèvement de ma ruine, le déshonneur. Ah, gredin !»
Aubrec ne bougeait pas. Démuni de son lorgnon, il gardait cependant ses lunettes, où la clarté des lumières se reflétait. Il avait considérablement maigri, et les os de ses pommettes saillaient au-dessus de ses joues creuses.
« Allons, il s'agit maintenant d'en finir. Il paraîtrait qu'il y a des copains qui rôdent dans le pays. Dieu veuille que ce ne soit pas ton intention et qu'il n'essaie pas de te délivrer, car ce serait ta perte immédiate, comme tu le sais. Sébastien, la trappe fonctionne toujours bien ?»
Sébastiani s'approcha, mit un genou en terre, souleva et tourna un anneau que Lupin n'avait pas remarqué, et qui se trouvait au pied même du lit. Une des dalles bascula, découvrant un trou noir.
« Et tu vois, tout est prévu, et j'ai sous la main tout ce qu'il faut, même des oubliettes, et des oubliettes insondables, dit la légende du château. Donc, rien à espérer, aucun secours. Veux-tu parler ?»
Aubrec, ne répondant pas, il continua.
C'est la 4e fois que je t'interroge, Aubrec. C'est la 4e fois que je me dérange pour te demander le document que tu possèdes et pour me soustraire ainsi à ton chantage. C'est la 4e et dernière fois. Veux-tu parler ?
Même silence. D'Albufex fit un signe à Sébastiani. Le garde s'avança, suivi de 2 de ses fils. L'un d'eux tenait un bâton à la main.
« Vas-y !»
ordonna d'Albufex après quelques secondes d'attente. Sébastiani relâcha les lanières qui serraient les poignets de Aubrec, introduisit et fixa le bâton entre les lanières.
« Je tourne, monsieur le marquis !»
Un silence encore. Le marquis attendait. Aubrec, ne bronchant pas, il murmura
« Parle donc ! À quoi bon t'exposer à souffrir ?»
Aucune réponse. tourne, Sebastiane. Tu ne veux pas parler. Tu sais pourtant que je ne céderai pas, qu'il m'est impossible de céder, que je te tiens, et que s'il le faut, je te démolirai jusqu'à t'en faire mourir. Tu ne veux pas parler. Non, Sebastiane, un tour de plus. Le garde obéit. Dobrec eut un soubresaut de douleur et retomba sur son lit, en râlant. Imbécile, mais parle donc! Quoi? Tu n'en as donc pas assez de cette liste? C'est bien le tour d'un autre, pourtant. Allons, parle! Où est-elle? Un mot seulement, et on te laisse tranquille. Et demain, quand j'aurai la liste, tu seras libre, libre, tu entends? Mais pour Dieu, parle! Oh, la brute! Sebastiani, encore un tour! Sebastiani fit un nouvel effort. Les os craquèrent.
Oh, au secours! Au secours!
Articula Dobrec d'une voix rauque et en cherchant vainement à se dégager.
Grâce! Grâce!
Spectacle horrible. Les trois fils avaient des visages convulsés. Lupin, frissonnant, écœuré, et qui comprenait que jamais il n'aurait pu accomplir lui-même cette abominable chose, Lupin épiait les paroles inévitables. Il allait savoir. Le secret de Dobrec allait s'exprimer en syllabes, en mots arrachés par la douleur. Et Lupin pensait déjà à la retraite, à l'automobile qui l'attendait, à la course éperdue vers Paris, à la victoire si proche.
« Parle !» Parle et ce sera fini.
Oui. Oui.
Eh bien.
Plus tard. Demain.
Ah ça, tu es fou. Demain, qu'est-ce que tu chantes? Sebastiani, encore un tour.
Non. 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 Arrête.
Parle.
Eh bien, voilà. J'ai caché le papier.
Mais la souffrance était trop grande. Dobrec releva sa tête dans un effort suprême, émit des sons incohérents, réussit deux fois à prononcer
« Marie, Marie »
et se renversa, épuisé, inerte. « Lâche donc, Sebastiani, sacre bleu! Est-ce que nous aurions forcé la dose ?» Mais un examen rapide lui prouva que Dobrec était simplement évanoui. Alors lui-même, exténué, il s'écroula sur le pied du lit en essuyant les gouttes de sueur qui mouillaient son front. Et il bredouilla
« Oh, oh, la sale besogne! C'est peut-être assez pour aujourd'hui. On pourrait recommencer demain, après-demain. »
Le marquis se taisait. Un des fils lui tendit une gourde de cognac. Il en remplit la moitié d'un verre et le but d'un trait.
« Demain, non. Tout de suite. Encore un petit effort. Au point où il en est, ce ne sera pas difficile. »
Et prenant le garde à part,
« Tu as entendu. Qu'a-t-il voulu dire par ce mot de « Marie » Deux fois, il l'a répété.
Oui, deux fois. Il a peut-être confié ce document que vous lui réclamez à une personne qui porte le nom de Marie.
Jamais de la vie. Il ne confie rien.
Oh, cela signifie autre chose. Mais quoi, monsieur le marquis?
Quoi? Nous n'allons pas tarder à le savoir, je t'en réponds.
À ce moment, Dobrec eut une longue aspiration et remua sur sa couche. D'Albufex, qui maintenant avait recouvré tout son sang-froid et qui ne quittait pas l'ennemi des yeux, s'approcha et lui dit
« Tu vois bien, Dobrec, c'est de la folie de résister. Quand on est vaincu, il n'y a qu'à subir la loi du vainqueur, au lieu de se faire torturer bêtement. Voyons, sois raisonnable.
Sébastiane, tends la corde, qu'il la sente un peu, ça le réveillera. Il fait le mort. » Sébastiani reprit le bâton et tourna jusqu'à ce que la corde revînt en contact avec les chairs tuméfiées. Dobrec sursauta.
« Arrête, Sébastiani. Notre ami me paraît avoir les meilleures dispositions du monde et comprendre la nécessité d'un accord. N'est-ce pas, Dobrec? Tu préfères en finir. Combien tu as raison ?»
Les deux hommes étaient inclinés au-dessus du patient. Sébastiani, le bâton en main, d'Albufex tenant la lampe afin d'éclairer en plein visage.
Oh, ses lèvres s'agitent. Il va parler. Me desserre un peu, Sébastiani. Je ne veux pas que notre ami souffre. Oh, et puis non. Serre davantage. Je crois que notre ami hésite. Encore un tour. Ah, halte! Nous y sommes. Ah, mon cher Dobrec, si tu n'articules pas mieux que ça, c'est du temps perdu. Quoi? Qu'est-ce que tu dis?